Comment ça se passe au niveau local quand on est membre d'un réseau international? Seconde partie de notre point de conversation avec David Tocqueville. Bon podcast!
Dans les dernières années, on a vu à peu près tous les réseaux débarquer ou redébarquer. Par exemple, Marketel était Jack McCann, mais McCann devient plus présent que jamais. On a vu les Asiatiques arriver aussi. Puis quand je jase avec des entreprises locales, ben c'est toujours le même discours. C'est comme, on le sait bien, mais à partir du moment que quelqu'un vend, ça devient dénaturé, déshumanisé. C'est plus vrai qu'il y a des décisions au niveau local, c'est juste les marges à rencontrer. T'avais pas un peu peur que ce soit ça aussi dans le réseau Guilvy?
Pas vraiment, parce que j'avais posé la question, puis ça ne semblait pas être un défi. Je dis semblait parce que je l'ai découvert par la suite que ça ne l'était pas. Je connais pas les autres réseaux, donc je vais parler pour le mien. Ouais. Moi, ça me faisait pas peur parce que j'avais eu aussi des rencontres avec les gens de Toronto et tout. Et notre bureau, nous, de Montréal, n'est pas drivé par Toronto. C'est réellement un travail d'équipe. Puis est-ce que c'est le fait qu'on est propriétaire à 51% de notre bureau?
Ça doit.
Peut-être, parce que les autres ne le sont pas. Mais c'est pas ça que j'ai senti. Il y a une réelle collaboration de faire grandir la marque, la passion de vouloir la driver puis de la faire grandir puis de la faire connaître. Est-ce que des fois il arrive une friction? Peut-être. Mais est-ce qu'il en arrive aussi dans le bureau sur place locale?
Ouais.
Fait que dans le fond, c'est un peu comment les gestionnaires au niveau local vont vouloir prendre la chose puis le driver. Ultimement, si tu te laisses driver, je présume que tu vas te faire driver, sauf que si tu génères des leads, si tu crées de la bonne création, parce qu'ultimement, c'est à ça qu'on sert dans la vie comme agence, c'est d'être innovant puis faire de la création, je pense que tu fais ta propre place. Puis en tout cas, pour nous, chez nous, c'est ce qui arrive, puis ça va super bien. Là.
Probablement que Guilvy Montréal, c'est peut-être une des dernières boîtes, parce qu'effectivement, tous les réseaux, à l'époque, à cause de contraintes légales d'ici, avaient besoin d'actionnariat local, fait que toutes les Marketel, les Saint-Jacques-Vallée de ce monde, c'est parce qu'il y avait 51% des actions locales, puis ça a fait en sorte que pendant cette période-là, oui, ces boîtes-là faisaient partie de réseau, mais les décisions étaient quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau local, puis le fait international ou national, ça venait juste amener de l'eau au moulin, c'est-à-dire qu'un Marketel avait L'Oréal grâce à ses amis de McCann, etc. Puis ce qu'on a cité récemment, ben il y a comme toute une vague d'entrepreneurs publicitaires d'un certain âge qui se sont retrouvés à un moment où ils ont fait comme, ben, OK, moi, je vais aller jouer ailleurs. Dans plusieurs des cas, ce qu'on a vu, c'est, ben, coudonc, je vais revendre au réseau. Puis si je me trompe pas, j'avais fait une petite recherche à l'époque, puis ça n'a pas dû trop changer. Il y avait deux boîtes dans le réseau Guilvy, dans le monde, qui étaient encore majoritairement locales. C'était une petite boîte en Afrique du Sud qui a été rachetée par Guilvy. Puis il reste encore le petit village d'irréductible gaulois à Montréal. En fait.
On est effectivement le seul bureau maintenant au monde sur 500, là, aux dernières nouvelles, là, à être indépendant. Puis tu sais, pour revenir à ta question par rapport au niveau de saveur locale, je pense en fait que c'est aussi une façon de... C'est aussi ta vision, tu sais, de la présenter, comment toi tu vas faire vivre ton agence à ta saveur locale, puis d'être capable de le débattre si jamais quelqu'un y croit pas. Moi, je sais que chez nous, la saveur locale, on est capable de la faire vivre, on me laisse la faire vivre, puis en plus, on m'encourage à le faire, et on partage encore de plus en plus là, avec la nouvelle CEO, Laurie Young à Toronto, avec qui j'ai une très bonne relation. C'est vraiment, moi, je trouve qu'Ogilvy, avec la restructuration qu'on a entendue d'Ogilvy à travers le monde qui s'installe, puis aussi ce qu'on a fait au Canada comme à Montréal, on le sent, on est dans une bonne vibe, puis l'avenir est vraiment bon pour nous, je le pressens très fort.
Comment ça s'est passé, le mariage terrain Ogilvy? Contractuellement, ça va, il y a des tonnes d'avocats qui checkent, puis ça va, mais à un moment donné, il y a une gang qui a rencontré une autre gang. Ça s'est-tu bien passé?
En fait, ça s'est bien passé parce qu'on avait prévu le coup. Donc, on avait créé un petit comité là, avec des personnes là, des deux bureaux, okay, qui avaient le mandat de créer des événements, puis justement des trucs qui allaient intégrer les deux équipes. Est-ce que ça l'a fait bizarre pour les gens de terrain de rentrer dans les bureaux d'Ogilvy qui étaient dans un autre style et tout? C'est sûr, c'est un déménagement, tu dois t'acclimater. Mais on n'a pas eu de clash, on n'a pas vécu là, de chicane interne ou autre.
L'offre Ogilvy avec la plénière d'outils de planification stratégique, etc. C'est quelque chose qui peut être utile pour développer le marché? C'est quelque chose qui est bien reçu par des annonceurs plus locaux? Parce que toi, pendant 10 ans, ton sales pitch, c'était, t'es parti avec ta petite valise, t'es rencontré Sobé et tout ça, mais t'avais ton histoire à la terrain. Mais depuis un an, j'imagine que ton storytelling il est différent. Ma question, c'était comment c'est reçu sur quand David Aubert raconte l'histoire de David Ogilvy, ça fait-tu une différence en termes d'intérêt des prospects que tu rencontres?
Oui, parce que, dans le fond, la première chose, quand tu rencontres un client, tu connaissais soit pas la marque ou peu importe, mais tu racontes l'histoire d'Ogilvy, c'est sûr qu'il y a un côté apeurant de ça, de dire c'est bien trop gros pour moi, vous êtes 500 bureaux dans le monde, et ainsi de suite. Mais c'est de le ramener à une échelle locale, c'est-à-dire on n'est pas 500 en ce moment dans ton bureau, là on est le bureau de Montréal dans ton bureau, prêt à t'offrir des services, à offrir toutes les ressources offertes par ce réseau-là tout à fait gratuitement finalement, parce que nous on y a accès, puis de prendre ce know-how-là et de l'appliquer à ton entreprise aussi. Et le potentiel est vu tout de suite quand les gens se rendent compte qu'ils peuvent, puis que nous on accepte, puis qu'on aurait du plaisir et qu'une volonté de travailler avec eux. Souvent, ça crée tout de suite une flamèche pour dire ben quand est-ce qu'on commande.
Au cours de la dernière année, Ogilvy a ramassé Hollywood des nouveaux gains. Considères-tu que ce mix terrain Ogilvy a été pour quelque chose? Je parle pas forcément du nom de l'entreprise, mais plutôt ce jumelage d'expertise.
Oui, c'est un mariage, un merge. Justement basé volontairement sur la complémentarité. Donc, on a retrouvé, et c'est peut-être pour ça que le merge a super bien été, c'est qu'on a retrouvé de part et d'autre des forces chez chacun. Quand on parlait de cette espèce d'énergie-là, un peu de start-up et tout, puis la notion de retail, nous, on avait ça, et Ogilvy avait toute la portion profondeur, réseau, clients gouvernementaux et ainsi de suite. Donc, ouais, effectivement, on constate que c'est l'ensemble, les deux ensemble, qui a fait qu'on a plusieurs wins aujourd'hui. La chimie nous amène à séduire plus, finalement.
Ouais, Monsieur Mercier, c'est ça qui a acheté. Je ne sais pas s'il s'appelle Monsieur Mercier, Plancher Mercier. Là.
Non, ben oui, c'est la famille Mercier qui est propriétaire de ça.
Ouais.
Puis, le directeur marketing, c'est Michel Collin qui, lui, est impliqué dans ça parce que c'est le directeur du marketing. Mais oui, la famille a acheté le côté profondeur. Mais comme je te disais, d'emblée, les personnes qui se sont présentées avec une expérience retail et marque réseau. Donc, on a déjà des réseaux ici qui permettent d'avoir une crédibilité puis une connaissance autant du B2B, du B2C. Et d'être capable de rentrer dans un réseau de détaillants comme eux, ils en ont 1000, et de comprendre leur réalité qu'un détaillant fait face à un consommateur et que notre client fait face à son consommateur, qui est le consommateur, mais aussi son détaillant. Donc, il a acheté la connaissance derrière ça et les outils et la profondeur du réseau que Terrain n'avait pas avant. Donc, c'est le mix des deux qui a été acheté.
Puis, si on regarde au niveau international, Ogilvy aussi est en train de faire ce changement-là avec tout le remodeling de l'opération pour mettre le consommateur au centre, ce qui était comme pas vraiment là pendant les nombreuses années d'Ogilvy. Tu te dis, ben coudonc, on dirait même international, la volonté de se rapprocher du client, pas le client, mais du consommateur, fait du sens. En tout cas, elle résonne, c'est un grand réseau, est prêt à se remettre en question dans ce sens-là.
Ben, encore une fois, on revient un peu au milieu de notre discussion quand on parlait de spécialisation. Ogilvy, il n'a pas échappé non plus. Ou est-ce que, dans le fond, on pouvait retrouver chez Ogilvy le Ogilvy & Mather, qui est la publicité. On trouvait Neo Ogilvy, on trouvait Ogilvy One, et ainsi de suite. Donc, on tombait avec des spécialités ou même des entités n'ayant pas nécessairement le nom Ogilvy, mais appartenant à Ogilvy. Il y avait plein de spécialités avec des cartes différentes. Fait qu'au final, on se présentait chez le client avec 5 images différentes. Et ça, c'est un des points que le réseau a souligné, de dire on passe du temps à finalement expliquer qui nous sommes en vrai après 5 entités puis qu'on en est juste une, au lieu de focusser tout de suite sur qu'est-ce qu'on peut tout de suite créer ou innover ou quelle solution à quel défi on doit faire face.
Puis aussi éliminer la compétition à l'interne, parce qu'on l'a toujours vu dans des réseaux. Il y a plein d'entreprises, mais finalement, il y en a une qui est le lead, c'est lui qui veut garder ses marges, je veux pas partager. Puis là, ce que je sens que le réseau est en train de faire, ça vous affectera probablement pas vous ici à Montréal, mais c'est de faire en sorte que, OK, guys, là, on s'en fout, là, que ce soit Néo, que ce soit whatever, on est sur ce compte-là, puis that's it, on vient de se trouver un nouveau modèle de financer ça sans que ce soit, s'il y a déjà assez de compétition dans le monde, s'il faut que dans la famille, ça se batte entre eux autres. Là.
Exactement, c'est pour ça le PNL unique, mettons, aux États-Unis,
là, ouais, c'est ça.
Qui est le marché test, qui dit après ça, on va l'appliquer à d'autres pays, puis on le sait qu'en 2017, il y a des dates là, pour que d'autres emboîtent le pas, mais effectivement, c'est un des points majeurs aussi avec le côté image, avec le côté chiffre, tout ça rentrait dans le même dans la même chose de simplifier le portrait, finalement.
Un an après,
next. En voulant dire, moi, je reste toujours aussi ouvert aux opportunités. J'ai ce privilège-là, justement, en étant propriétaire de mon entreprise, de voir les différentes opportunités qui s'offrent pour nous dans le marché et puis à profiter de la consolidation du marché. Donc, nous autres, notre objectif, c'est sûr que c'est de croître, comme Ogilvy l'a toujours fait, par rapport à offrir un bon produit créatif. Mais je garde quand même les yeux ouverts sur les opportunités. Ça fait aussi partie de mon travail. Fait que moi, c'est pour ça que je dis next, parce que ça l'a bien été.
Des défis en pub, les années à venir, qu'est-ce que tu vois, toi? Si on regarde, mettons, en 2025, une agence va probablement... Le principe d'agence va probablement encore exister, mais sa forme va probablement s'adapter à là où on sera rendu dans 2025. Tu disais, c'est en pub, c'est un an, ça vaut deux ans. Moi, je pense que c'est plus comme un an vaut mille ans. Surtout ces temps-ci, ça va tellement vite.
Effectivement. Ce qui est important de savoir dans notre milieu, c'est que ça va toujours changer. Ça va, faut toujours que tu sois à l'affût. Puis tu peux pas te faire un plan quinquennal. Si ton objectif, finalement, c'est de rester créatif, parce que c'est ce que les gens vont acheter, la créativité et la stratégie. Mais à la base, c'est de dire, moi, je vis toujours dans un air incertain. Quand est-ce qu'un autre canot va sortir, va faire une disruption, finalement, de tout ce qu'on connaît actuellement? Un peu comme au début, hein, on parlait de Facebook comme un média, médias sociaux, mais il était tout seul jusqu'à temps que, finalement, d'autres arrivent, comme Instagram, Snapchat, et ainsi de suite. Puis là, on parle de médias sociaux au pluriel, mais puis le mot « média » devient aussi de plus en plus fort.
OK, oui.
Tu le sais, tu, toi-même, tu es un spécialiste de ça. Le mot média devient est le premier mot dans les médias sociaux. Puis je trouve qu'il prend un poids, mais là, 3-4 ans, c'était pas comme ça. On parlait beaucoup de côté social, de cause et tout. Donc, on a déjà déclaré les agences mortes. On voit aujourd'hui qu'il y a des agences digitales qui finalement ne sont plus digitales. Ils deviennent une agence tout simplement. Il n'y a plus de frontières. Si tu ne penses pas digital ou si tu ne penses pas tout court canaux, tu sais, omnichannel, de tout ce qui est devant toi, ben finalement, tu ne seras pas pertinent pour un annonceur ou un client qui veut communiquer un message. Donc, finalement, en 2025, 2030, même en 2050, l'agence va toujours être là. Je crois que ce que l'industrie amène, c'est toujours une espèce de deuxième vision, toujours amener des idées fraîches. Et si on reste là-dessus puis qu'on reste modulable, le succès va être au rendez-vous, c'est pratiquement sûr.
All right. Fait qu'on se reparle en 2030.
Ça va me faire plaisir, Normand.
C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Si le cœur vous en dit, poursuivons cette conversation sur Twitter via le hashtag GrenierMag et mon identifiant PizzaForAll. Pour écouter d'autres PizzCasts, rendez-vous sur le Grenier aux Nouvelles. Vous pouvez également me retrouver dans la section podcast d'iTunes sous Das PizzCast. Ou bien, venez donc faire un petit tour sur mon site web, miron.co. À la prochaine!